Pensez.
Vive la fatigue, et oui, être fatigué a du bon si l'on apprend à vivre avec cet état et à en cerner toutes les richesses, parce qu'il y a des richesses insoupçonnées dans cette fatigue, Anne Lorganac. Cette idée surprenante est au cœur d'un nouvel ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire, Ode à la fatigue, dont l'auteur est votre invité, Anne-Laure. Il s'agit du philosophe français Éric Fiat, qui est ce matin en duplex avec nous depuis Paris. Bonjour Éric Fiat.
Bonjour.
Bonjour. Effectivement, une ode à la fatigue, voilà, qui a de quoi surprendre. Qui aime se sentir fatigué, sinon, bien sûr, le soir, une fois enveloppé dans ses draps, quand il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à savourer cet état, laisser la fatigue infuser, vous savez, jusqu'au sommeil. Sauf que la fatigue ne nous saisit pas qu'au moment opportun, pas plus qu'elle ne s'engage à nous laisser tranquille le matin. Donc quand la fatigue devient chronique, qu'elle nous empêche paradoxalement de dormir, qu'elle nous épuise, nous crame, hein, jusqu'au burn-out, burn-out qui régulièrement fait la une, enseignants, corps médical, parents, mais aussi enfants. Les populations touchées par l'épuisement seraient de plus en plus nombreuses. Et c'est donc pour nous parler aussi de ce visage-là, de cette fatigue, que nous vous avons également invité. Annie Valen, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Vous êtes diplômée en psychologie sociale, vous avez travaillé une dizaine d'années au sein du service de relations humaines de multinationales et depuis 2013, vous êtes consultante auprès des entreprises que vous accompagnez pour développer des stratégies aidant à une meilleure qualité de vie au travail et vous êtes co-auteur de Burnout, la maladie du 21e siècle, point d'interrogation, paru aux éditions Favre il y a quelques semaines. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de cette réalité suisse de l'épuisement, ouvrons avec un peu de poésie, si vous voulez bien. Mmh. Un mal qui répand la terreur, la fatigue, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux êtres humains la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est par ce détournement des vers de la fable « Les animaux malades de la peste » de Jean de La Fontaine que vous ouvrez votre livre, Éric Fiat. Est-ce à dire que la fatigue est la peste contemporaine, selon vous ?
Ah, je crains bien qu'elle le soit. Cependant, comme vous le disiez dans votre très juste introduction, la fatigue n'est pas forcément un mal. Une ode, ça a trois parties, et j'ai essayé d'être fidèle, vous savez, à cette forme littéraire latine, l'ode, qui fait qu'il y a une strophe, une antistrophe et une épode. Et précisément, dans l'antistrophe, je parle des mauvaises fatigues et du burn-out, ce qui fait que mon petit livre fait écho à celui de ma collègue. Oui, la fatigue peut être une peste. Elle brûle de l'intérieur ceux qui n'arrivent à la supporter. Et en effet, on peut dire d'elle ce que La Fontaine disait de la peste. Hein. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nous ne sommes pas tous morts de fatigue. Et peut-être c'est ça le burn-out, c'est le fait d'être mort de fatigue. Mais nous sommes tous frappés.
On ne la voit pas toujours venir, hein, cette fatigue, en fait. C'est quelque chose d'assez insidieux, non, Éric Fiat ?
Tout à fait, parce que la fatigue ne se présente jamais de face. Elle ne vient pas de face. Quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. La fatigue n'est pas un ennemi qu'on peut combattre, comme David combattait Goliath, ou comme l'homme qui a un cancer et qui va pas trop mal peut dire qu'il va combattre son cancer. Quand on peut objectiver le mal, le mettre devant soi, bon, on peut peut-être le combattre. Mais la fatigue, en effet, on ne la voit pas venir parce qu'elle vient d'en haut. Et on dit qu'on sent son poids sur les épaules. Elle vient de derrière et on dit vulgairement qu'on en a plein le dos. Et elle vient d'en dessous, c'est-à-dire qu'on tombe de fatigue. C'est ça son aspect pernicieux et peut-être un peu mesquin. Il m'arrive de comparer la fatigue à un démon mesquin, au démon mesquin de la quotidienneté.
Mmh. Annie Valen, je vous vois opiner. Comment est-ce que vous constatez cette réalité-là de la fatigue au sein des entreprises, en l'occurrence ?
Oui, complètement. Et je trouve que la comparaison avec la peste, finalement, est assez intéressante dans le sens qu'on est face à quelque chose de rampant, d'insidieux, parfois de pernicieux, qu'on comprend pas. Au XIIIe siècle, on savait pas de quoi il retournait, finalement, avec cette histoire de peste. Et aujourd'hui, on constate aussi, finalement, qu'on a du mal à mettre des mots sur la nature de cette fatigue, de cette mauvaise fatigue. Et voilà, il y a cette question de contagion aussi. Alors évidemment, on n'est pas face à un agent pathogène comme dans la situation de la peste, mais il y a un report de charge qui fait qu'il y a une forme de contamination, d'épidémie de fatigue dans le monde des entreprises, qui est celui que je connais, mais dans le monde de la société en général. Donc effectivement, je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux façons de voir ces éléments.
Un report de charge, vous dites, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la personne fatiguée va être moins en mesure, évidemment, d'accomplir ses tâches de manière la plus adéquate possible. Donc, évidemment qu'il y a ensuite le report de l'activité ou d'une partie de l'activité sur les autres personnes de l'équipe. Mm-hmm. Donc, on a dans ce sens-là une forme de contamination ou de contagion.
Et qui entraîne, du coup, la fatigue pour les autres,
Exactement,
parce qu'il faut compenser.
Mm-hmm. Donc, l'éventail est effectivement très large. Quand même du coup de barre, hein, comme on l'appelle parfois, jusqu'au burn-out, c'est-à-dire cette brûlure qui nous réduit en cendres de l'intérieur, de la mollesse à la dépression en passant par la paresse. Donc cet éventail est très très large. Comment s'y retrouver ? Éric Fiat, vous, de quelle fatigue souhaitiez-vous faire l'éloge ? De la bonne fatigue, vous dites, mais encore ?
Bien sûr, alors l'éventail est très large et j'essaie de parler de toutes les fatigues, mais pour en effet essayer d'apporter un peu de clarté, je me suis cru devoir distinguer dans un premier temps entre une bonne et une mauvaise fatigue. Alors bien sûr, entre les deux, il y a tout un éventail, un herbier, un nuancier de fatigue, mais en effet, il existe de bonnes fatigues. La bonne fatigue, c'est la fatigue du sportif vainqueur, la fatigue des amoureux qui se sont aimés toute la nuit, la fatigue de celui qui aime son travail et a l'impression du devoir bien fait ou de la tâche accomplie. Voilà évidemment des personnages fatigués parce qu'ils ont donné beaucoup de force, qui dans le travail, qui dans l'amour, qui dans le jeu. Mais après qu'ils ont donné toutes ces forces, eh bien ils ont la joie d'être comme ils voulaient être. Et la joie est dilatatrice. Ils ont peu de force, mais les quelques forces qu'il leur reste sont dilatées par la joie d'avoir bien travaillé, bien aimé, bien joué. Ça, c'est en effet la bonne fatigue. Et je crois que, même si en effet le burn-out est comme une peste qui gagne de plus en plus le monde du travail, et peut-être pas que lui, on en parlera peut-être, je crois qu'il faut honorer aussi ces bonnes fatigues. Et je ne désespère pas que même dans un monde, en effet, qui a parfois tendance à faire de la vie l'annexe du travail, comme disait François Mitterrand pour le craindre, je ne désespère pas que même dans notre monde, il soit encore possible de connaître de bonnes fatigues.
Mmh. Oui, car vous considérez la fatigue comme inhérente à notre condition humaine, parce que nous savons, nous, que nous allons mourir. Au fond, la fatigue serait presque le propre de l'homme, c'est ça ?
Alors je pense qu'il y a une fatigue animale. Dans mon petit livre, je parle beaucoup avec mon chat.
C'est vrai, votre chat, oui. Vous faites la sieste avec votre chat.
Tout à fait. Mais il est bien évident que la fatigue du chat et la fatigue de l'homme sont tout de même assez essentiellement différentes. Oui, la fatigue est inhérente à l'humanité dans la mesure où, comme vous le disiez, oui, l'homme est peut-être le seul vivant qui sache qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Nous n'avons pas demandé à être et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes. D'ailleurs, si nous le pouvions, nous demanderions tous des modifications. Et en effet, nous avons été jetés dans cette aventure sans l'avoir voulu et nous en serons arrachés sans le vouloir. Et le sentiment de notre contingence et de notre mortalité fomente en effet l'effort que nous faisons tous pour essayer de nous rassurer. Suis-je digne d'être ? J'aurais pu ne pas être, je ne serais plus, est-il bon que je sois ? Et l'effort pour essayer de légitimer le fait que nous soyons et que nous soyons comme nous sommes est sans doute l'origine de bien, de bon nombre de nos activités et par voie de conséquence de bon nombre de nos fatigues. Alors il nous arrive parfois de considérer l'existence comme un cadeau, mais parfois comme un fardeau. Comme un cadeau, j'aurais pu ne pas être, je suis, quelle chance ! Je ne serai plus, je suis encore. Quelle chance. Mais parfois comme un fardeau. Il nous arrive parfois d'avoir envie de chanter avec Jane Birkin grâce à Serge Gainsbourg. Avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Mmh. Et quand l'existence est un fardeau, oui, là on connaît en effet cette mauvaise fatigue. Mais je crois profondément que, en effet, la philosophie, vous savez, distingue entre vivre et exister. Mmh. L'homme ne fait pas que vivre, il existe. Alors mon chat, le chameau qui vit, mais d'après Heidegger, il n'existe pas. C'est peut-être contestable, mais je crois qu'Heidegger n'a pas tort de dire que bon, la vie humaine est autre chose que la vie humaine du fait que nous avons un rapport à la mort. Et par conséquent, l'humanité n'est pas dans l'homme, si vous voulez, comme la roséité dans la rose ou la circularité dans le cercle. C'est pourquoi l'humanité est une tâche. Et donc l'homme fait ce que j'appelle le dur métier d'exister. Mmh. Ça a toujours existé. Et ma foi, ça peut engendrer de bonnes fatigues, parce que le dur métier d'exister, quand on se dit « bah je le fais pas trop mal » ou « les autres trouvent que je le fais pas trop mal », eh bien on peut se coucher et dormir du sommeil du juste et être heureux. Mmh. Malheureusement, je constate en effet, comme ma collègue, que de plus en plus, bon nombre de contemporains ont tendance à considérer l'existence plus comme un fardeau, comme un cadeau. Et, mmh. et là, oui, se fomente cette brûlure intérieure qu'on nomme le burn-out. En français, je sais pas, en Suisse, comment vous faites?
Ah, je crois qu'on utilise
traduit burn-out.
Mais je me suis demandé, ce terme existe depuis quand? Puisque c'est un terme qui est emprunté à l'anglais. C'est très à la mode. Depuis 5-10 ans, on en parle beaucoup, mais avant, on n'en parlait pas. Annivale.
Non, effectivement. Alors, il a été utilisé dans le cadre de l'humain, on va dire, dans le milieu des années 60 pour la première fois, par un Américain. Et puis ensuite, il a été appliqué au syndrome d'épuisement connaît à peu près dans les termes d'aujourd'hui, à partir du milieu des années 70, hein, pour la France.
Oui.
Voilà. Mais c'est un terme, en fait, qui était utilisé plutôt en mécanique. Les motards le connaissent bien pour une application tout à fait différente. Et puis, il a été utilisé aussi dans le cadre des lépreux, qui était le fait, finalement, de se consumer, donc de perdre des membres dus à la maladie. Et c'est d'ailleurs cette première analogie qui a apporté ce terme sur la place médicale, enfin, sur la question de la santé.
Voilà, se donc, cramer de l'intérieur.
Se brûler de l'intérieur, d'ailleurs. Voilà, ouais. Effectivement. Freudenberger, qui a été le psychanalyste américain à décrire ce processus d'épuisement pour la première fois, on lui attribue, finalement, cette paternité, elle a un petit peu discuté, mais observait, effectivement, des bénévoles qui travaillaient à New York, dans le Bronx, dans la relation d'aide, et qui les voyaient, finalement, certains d'entre eux se consumer. Donc, il les comparait à un immeuble qui prend feu de l'intérieur jusqu'à ce que, finalement, l'effondrement les amène à des comportements qui étaient, par ailleurs, maltraitants pour leurs bénéficiaires. Mmh. Voilà, donc il avait déjà décrit de manière assez précise ce syndrome dans les années 70.
Dans votre livre, Annie Wallon, vous expliquez que la distinction et le lien aussi entre le burn-out et la dépression n'est vraiment pas simple. Comment les différencier?
Oui, alors ça c'est très intéressant. L'une des sources que nous avons utilisées pour l'ouvrage, c'est une enquête auprès des médecins généralistes, des psychiatres, des psychothérapeutes. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que dans le milieu médical, il n'y a déjà pas de consensus sur ceux qui pensent qu'il s'agit de la même chose, ceux qui pensent qu'il s'agit que c'est quelque chose de différent, ceux qui considèrent ça comme une conséquence l'une de l'autre. Donc voilà, on n'est pas au clair par rapport à ça, bien que les avancées de la recherche nous permettent actuellement de discriminer quand même ces deux tableaux, où avec le burn-out, on n'est pas dans une maladie officiellement reconnue, hein, donc elle n'est pas décrite dans les classifications officielles des maladies, alors que la dépression l'est. Donc on n'est pas face à un trouble psychique officiel, si on veut bien, hein, qu'on saurait circonscrire à une personne. On est vraiment dépendant de l'environnement. Ça, c'est le premier point. Puis bien évidemment qu'un burn-out qui n'est pas pris en charge, qui finalement continue à brûler la personne, risque de déboucher sur un état dépressif et une dépression. Donc la dépression peut être une conséquence. Il peut y avoir aussi des situations de comorbidité, donc avoir une personne qui souffre à la fois d'épuisement, mais aussi de dépression. Donc voilà, on n'est pas encore tout à fait au clair et il y aurait vraiment matière à débattre autour de ce thème.
Éric Fiat, vous citiez tout à l'heure dans le champ de cette bonne fatigue, la bonne fatigue du travail bien fait, ce qui mérite effectivement une ode ou un éloge. Et c'est ce qu'a fait, il y a quelques 50 ans à peu près, le comédien, poète que vous connaissez probablement, Robert Lamoureux. Écoutez.
Quand j'ai fini mon numéro, c'est pas très fatigant, il faut être juste, mais enfin quand même, il fait chaud. Et puis, quand j'ai fini mon numéro, quand je sors du théâtre le soir, j'ai toujours la figure un peu fatiguée. Si bien que les gens que je rencontre dans la rue à ce moment-là me disent toujours « t'as mauvaise mine ». Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça peut être assommant de s'entendre dire à longueur d'année que j'ai mauvaise mine, ça finit par être déprimant. Enfin, tous ceux qui ont, comme moi, le visage un peu mince, pour pas dire mec, savent ce que c'est. Sans compter que les gens qui vous disent « t'as mauvaise mine » sont toujours des bons rondouillards et on a carrément envie de leur foutre des tartes. Alors... comme on n'a jamais mauvaise mine que parce qu'on est fatigué, et comme on n'est jamais fatigué que parce qu'on travaille, j'ai pensé que pour tous les gens qui travaillaient et qui étaient fatigués et qui partant avaient plus ou moins mauvaise mine, j'ai écrit un petit poème que je leur dédie et puis que je me dédie un peu de temps en temps à moi-même et que j'ai intitulé « L'éloge de la fatigue ». Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course. Et pour cela se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, ils passent inaperçus. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de lutte. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. Et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort, je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.
Des applaudissements bien mérités, hein, ici pour ce très beau poème, hein, je veux dire, c'est très très bien écrit ici par Robert Lamoureux, qui fait cet éloge de la fatigue, donc, et qui commence par dire « ta mauvaise mine ». C'est vrai que c'est déprimant d'entendre, s'entendre dire toujours qu'on a mauvaise mine à Morganac.
Vous avez très bonne mine, Julian.
Vous trouvez? C'est
important.
Et Éric Fiat, comment réagissez-vous à ce poème de Robert Lamoureux, où il nous dit notamment que se plaindre de fatigue est une vantardise?
Oh ben, j'ai envie d'applaudir comme les spectateurs qui assistaient au spectacle. D'abord, il a un très beau nom, Robert Lamoureux.
Oui, c'est vrai.
Et puis, je ne connaissais pas ce texte. Je l'aime énormément. J'aime dire que la littérature est supérieure à la philosophie, car souvent elle dit en termes simples ce que la philosophie a besoin de concepts un peu compliqués pour dire. En même temps, j'ai envie de dire que la philosophie est quand même supérieure à la littérature, parce que la philosophie sait que la littérature lui est supérieure, alors que la littérature a un peu peur de la philosophie. Mais dans une certaine mesure, ce que j'essaie de dire dans mon livre est très proche de ce que dit l'amoureux. J'ai noté comme ça, aider une existence à poursuivre sa course. J'ai noté également des vies dont on est responsable. Ce qui nous est murmuré ici par ce poète humoriste, c'est en effet que lorsque l'on ne se fatigue pas que pour soi, mais lorsque l'on se fatigue pour les autres par le travail, eh bien, on donne quelque chose de soi qui participe de la solidarité humaine. Notre propre temps, notre propre vie, notre propre subjectivité sont absorbés et assimilés par les autres. Je suis à ma table, je travaille, j'ai un livre de Pascal d'un côté, un livre de La Fontaine d'autre part. Je crois que je travaille seul, mais pas du tout. Pour que ce livre soit là, il a fallu qu'il y ait des poètes, il a fallu qu'il y ait des traducteurs, il y a fallu qu'il y ait des copistes, des bûcherons qui coupent les arbres pour qu'il y ait des feuilles. Il a fallu que quelqu'un fasse la table. Et donc, je parle de la nature eucharistique du travail. Chacun a besoin du travail des autres pour être soi. Et lorsque l'on se dépense dans son travail et qu'on l'aime, eh bien, on ne travaille pas que pour soi, on donne aussi aux autres. Je trouve ça en effet très... Non seulement c'est un texte... Les grands humoristes rejoignent les grands métaphysiciens et les grands poètes, parce que c'est un texte à la fois drôle et je trouve émouvant.
Oui.
Donc ma réaction, c'est d'avoir envie d'applaudir. Je crois que je suis pas le seul.
Pas du tout, en effet.
Annie Vallon, dites-moi, oui, Eric.
Est-ce que je peux, je voulais poser une question à ma collègue, si c'est, si
oui,
c'est
oui,
possible.
Bien sûr.
Parce j'aime beaucoup ce qu'elle a dit évidemment au sujet du burn out. Moi, ce qui me gêne en français, c'est qu'on a un peu oublié ce terme parce qu'on le traduit par épuisement professionnel. Et résultat, on manque la notion dont elle a si bien parlé de brûlure. Est-ce qu'en Suisse, on fait la même chose? Est-ce qu'on parle de burn out ou d'épuisement professionnel de manière interchangeable ou pas?
Oui, alors malheureusement, oui, effectivement, on parle de burn out. On parle aussi du syndrome d'épuisement professionnel, qui effectivement, à mon sens, n'est qu'une partie de la problématique.
Oui.
L'épuisement est une des facettes finalement du burn-out, mais il y en a d'autres pour que l'on puisse qualifier cette atteinte à la santé de burn-out. Voilà, donc d'où la confusion et peut-être l'abus de langage qui est très très fréquent sur l'utilisation de ce terme, où j'ai envie de dire parfois le stress chronique est déjà assimilé au burn-out. Mmh. Il en est évidemment une des conséquences possibles, mais il faut d'autres éléments comme la distanciation de soi, comme la perte du sentiment d'accomplissement, voilà, pour qu'on puisse vraiment qualifier cette atteinte à la santé de burn-out. Donc effectivement, c'est un petit peu abusif.
Mmh. Annie Vallon, on parlait juste avant de cet amour du travail bien fait qui illustrait le poème de Robert Lamoureux notamment, mais est-ce que ça n'est pas aussi une cause possible d'un burn-out, justement? Comment passe-t-on de la fatigue saine comme une récompense de son engagement à une forme d'épuisement?
Oui, alors d'autant plus dans une société comme la société suisse où la qualité est quelque chose de fondamental par rapport aux valeurs. Donc oui, je pense qu'il y a... Il y a cette problématique aussi d'identité sociale par le travail. Nous sommes dans des sociétés où nous nous définissons beaucoup par notre rôle professionnel. Donc ça, évidemment, que ça engendre un investissement ou une valorisation du travail qui est peut-être excessive, enfin en tout cas qui est peut-être à questionner. Donc la place du travail dans la vie, le travail aussi comme vocation pour certains métiers qui, évidemment, incline à l'investissement ou au surengagement.
Avec un rythme toujours plus soutenu,
voilà.
Et parfois des lunchs qu'on fait avec des sandwichs en travaillant. Enfin,
voilà.
Les limites entre vie privée et travail sont de plus en plus ténues. Hein.
Ténues, aussi du fait des nouvelles technologies, enfin des technologies de la communication qui sont plus si nouvelles que ça. Mais effectivement, on est souvent face à une qualité empêchée. D'ailleurs, Yves Clos, un de vos confrères, confrère français, Monsieur Fiat l'a très bien décrit finalement. On est dans une société du travail où nous n'avons plus la possibilité de faire un travail de qualité dans lequel on peut laisser sa patte, son empreinte.
C'est vrai.
Et ça, c'est voilà, ça finit par créer de l'incohérence intérieure, donc par des questions de contraintes temporelles, mais aussi paradoxalement peut-être par le fait que la qualité n'est plus finalement l'apanage des experts du métier, mais des systèmes qualité. Des systèmes de normes. Donc les pairs, P-A-I-R-S, ne sont plus ceux qui vont évaluer la qualité du compagnon qui fait son travail, mais ce sont des tâches qui sont confiées à des personnes dont la qualité est devenue le métier. Donc on a aussi un rapport à la qualité qui s'est dégradé avec finalement une perte d'intérêt ou d'envie. Finalement, pour ce travail bien fait.
Vous aussi, Eric Fiat, vous abordez dans votre livre, quoique avant tout poétique, littéraire, philosophique, vous abordez également cet aspect, disons, plus sociologique, sociétal, des causes possibles du burn-out, notamment. Et vous avez notamment vous parlez de cette théorie du mythe du guet, qui serait l'une des causes possibles de l'épuisement.
Oui, alors je le fais avec prudence, hein, cette évocation de ce que devient le monde du travail aujourd'hui. Il y avait une formule de Rodin que j'aime beaucoup. Combien l'humanité serait plus heureuse si au lieu de considérer le travail comme la rançon de l'existence, elle le considérait comme le dû. Et il est vrai que quand on aime son travail, et c'est évidemment le cas du sculpteur, du poète en général, on considère le travail moins comme la rançon de l'existence, c'est-à-dire ce qu'on doit donner pour avoir le droit d'exister, que comme un dû. Junot disait « je paierai pour avoir le droit d'écrire ». Et en effet, je suis sensible à ce que disait ma collègue, je crois qu'on consonne totalement, pour dire que le malheur est qu'aujourd'hui, le travail est moins un métier qu'un emploi. Et je fais l'éloge du métier. Le métier, ça suppose en effet d'être jugé par les pairs, un apprentissage lent et corporel, une incorporation des règles de l'art. Et perdre ça, en effet, c'est souvent très, très, très douloureux. Alors, on est au milieu du guet, en effet, parce que, alors, on est dans un monde critique. Et la crise, hein, selon la vieille définition qu'on sait, c'est quand le vieux monde tarde à mourir et que le monde neuf tarde à naître. Et alors quand on est au milieu du gué, il est trop tard pour retourner à la rive d'où l'on vient, mais il est encore trop tôt pour espérer aller à la rive où l'on va. On est vraiment dans une situation assez assez douloureuse. Et au sujet du travail, je crois que c'est le cas de beaucoup de nos contemporains. J'en parlais avec un ami qui est boulanger. Il a l'impression que c'est plus comme avant, il le regrette, mais il sent qu'il va vers quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait. Oui, quand on est au milieu du gué, on a parfois la tentation de se laisser dériver dans le courant.
Alors, oui, Eric Fiat, vous écrivez...
Ah, je suis trop bavard.
Non, pas du tout, pas du tout. Vous voulez encore ajouter quelque chose ?
Je voulais poser une question.
Oui, continuez.
Je voulais poser une question. Oui, à ma collègue...
Annie Vallon, oui.
Voilà... comparait tout à l'heure le burn-out à une peste et à une lèpre. Et je trouve ça très très juste. Est-ce que vous avez entendu parler, parce que vous évoquiez la peste au XIIIe siècle, est-ce que vous avez entendu parler d'un mal qui était très présent au XIIIe siècle dans les monastères, à savoir l'acédie ?
Oui, tout à fait, effectivement.
Qui saisissait les moines, alors, hein, précisons.
Voilà. Et alors, en effet, je crois que la description que vous faites du burn-out aujourd'hui consonne beaucoup avec celle que fait, par exemple, Saint Jean Climac de ce burn-out, enfin de cette acédie des moines qui, au XIIIe siècle, était galopante, c'est-à-dire le moment où, au bout de 7-8 ans, le moine ne comprend plus ce qu'il fait là. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est ça que je voulais vous demander, c'est que cette lassitude, cette acédie, ce dégoût, pour ce que l'on a à faire, se traduisait de deux manières complètement différentes chez les moines, soit l'incurie, soit l'hypercurie. Alors l'incurie, c'est le moine qui arrive en retard aux offices, qui a ce qu'on appelait à l'époque la génuflexion oblique, j'adore cette expression, c'est-à-dire que le moine, au lieu de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, bon, allez, un vague petit mouvement du genou,
il bâcle un peu son mouvement.
Il bâcle son mouvement, il chante du bout des lèvres, il fait mal son jardin, il fait mal ses sculptures. Mais il y avait aussi l'hypercurie. Alors ça, c'est très grave. C'est-à-dire que de l'extérieur, on disait, il est impeccable ce moine, il est à l'heure, il chante bien, il se prosterne, il fait tout magnifiquement. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, il est complètement vide et il parle, Saint Jean Climac, d'une mécanisation de la vie du moine. Est-ce que dans le burn-out, il n'y a pas aussi ces deux choses-là? C'est-à-dire parfois, des travailleurs qui en effet arrivent en retard, ça se voit qu'ils en ont marre. Mais d'autres, apparemment, ils sont impeccables. Mais justement, cette impeccabilité cache la brûlure. Est-ce que vous retrouvez ça dans vos descriptions phénoménologiques du burn-out?
Oui, absolument. Ma collègue Nadia Drault pourrait en parler d'ailleurs beaucoup mieux que moi, puisqu'elle reçoit les personnes atteintes dans son cabinet. Mais effectivement, cette incurie pourrait se traduire aujourd'hui par finalement une réduction des attentes et une forme de résignation au travail. Donc voilà, avec des personnes qui paradoxalement vont se protéger effectivement de l'épuisement par cette attitude, qui est consciente ou pas d'ailleurs.
De retrait au fond.
Voilà, exactement. Et par contre, l'hypercurie, c'est vraiment la suradaptation qui va finalement, comme mécanisme de défense, créer le déni par rapport à sa propre fatigue, à son propre épuisement, et parfois justement amener à l'effondrement.
Avec un perfectionnisme qui, évidemment, épate les supérieurs.
Mais effectivement, on le dit, comme vous le disiez très bien, Eric Fiaz, c'est vivre, ce n'est plus exister. C'est être dans une forme de mécanisation de la vie, où tout est noir et blanc, il n'y a plus de nuances, donc on est dans le devoir et on n'est plus dans la vie, enfin l'existence vraiment.
Eric Fiat, vous écrivez dans cette ode à la fatigue que s'il est un compositeur qui n'a cessé de méditer sur la fatigue, eh bien c'est bien Bach, n'est-ce pas, qui est auteur de nombreuses odes à la fatigue, dont une cantate qui est l'une de ses cantates les plus célèbres, l'une des plus belles pour une voix de basse baryton, c'est « Ich habe genug ». Et je vous propose qu'on écoute le début de cette cantate avec l'une des voix les plus célèbres pour ce répertoire, c'est celle de Dietrich Fischer-Dieskau.
Merci infiniment.
Accompagné par le Karl Richter ici.
Extrait de la cantate numéro 82 de Bach, Ich habe genug, la voix de Dietrich Fischer-Dieskau aussi. Un enregistrement historique, mais un très bel enregistrement par ce grand maître, accompagné par Carl Richter. Carl Richter, qui, je le signale en passant, était le père du directeur du Grand Théâtre actuel, Tobias Richter. Ce qui nous ramène à cette ode à la fatigue dont nous parlons aujourd'hui avec vous, Anne Lorganac, Eric Fiat, et nous recevons aussi Annie Vallon pour un autre ouvrage, coécrit autour du burn-out pour Versus Pensée.
Eric Fiat, donc cette interprétation de Ich habe genug est présente dans votre livre. Hein. Vous dites que c'est vraiment un des chants les plus justes sur ce thème de la fatigue.
Oui, je trouve ça vraiment magnifique. On a reproché parfois à Fischer-Dieskau d'en faire trop, d'être un maître chanteur qui maîtrisait trop ses effets. Fischer-Dieskau, je dirais là, se laisse jouer par la musique plutôt qu'il ne la joue. Alors évidemment, c'est le chant d'un croyant. Et le texte dit... Chabogénouk, c'est-à-dire j'en ai assez, je suis fatigué, j'en peux plus. Mais ensuite, il y a mon réconfort et seulement que Jésus puisse être mien et que je puisse être sien. Endormez-vous, yeux là, fermez-vous doucement et heureusement. Ici, je ne pourrai qu'être toujours plus misérable, mais là-bas, je verrai une paix douce, un repos paisible, mon Dieu. Et le problème, c'est que la déchristianisation, notre monde fait que nous ne sommes plus nombreux à espérer le repos dans la paix ou le repos dans les bras du Seigneur. Et voilà pourquoi je termine en espérant que quelqu'un, quand je suis très fatigué, puisse m'accueillir dans ses bras, non pas un dieu, mais un homme, un être humain, pour justement qu'on puisse avouer ses fatigues sans être immédiatement humilié par la forme des autres. Nous avons vraiment besoin de ça. Et dans le monde professionnel, je crois que malheureusement, souvent, ceux qui n'en peuvent plus essaient de le cacher. Sinon, s'ils avouent leur fatigue, ils vont passer pour des ratés, des ringards, enfin bon... Et parfois, on est un petit peu comme dans le monde d'Andersen. Vous savez, le conte d'Andersen où tout le monde a vu que le roi était nu, mais personne n'ose le dire, jusqu'à ce qu'un enfant dise « le roi est nu ». Parfois, il y a des réunions, j'ai l'impression que tout le monde joue la comédie, tout le monde n'en peut plus de ces... Et puis, j'aimerais qu'un enfant se leva pour dire, enfin un enfant, un collègue, en disant « eh ben moi, j'en peux plus ». Mais peu de monde aujourd'hui ose dire « Ich habe genug », parce qu'il n'y a pas l'espérance d'un seigneur qui va nous accueillir.
Surtout que vous terminez cet ouvrage avec l'épaule. Donc, comme tout ode, cette troisième partie, sur les leçons à garder de la fatigue, il y en a, ou comment en tirer le meilleur. L'une des leçons que vous expliquez, ce serait une leçon d'humilité, finalement.
Mais oui, parce que la fatigue nous apprend que nous ne sommes pas des machines, que nous ne sommes pas des dieux, que nous ne sommes pas des anges, que nous ne sommes pas des membres de ce petit peuple de féeries. Vous savez, ces êtres à l'inlassable capacité métamorphique, ils peuvent changer de forme à loisir. Et donc, quand je suis fatigué, je me rends compte que je ne suis qu'un homme. Assumer sa fatigue, c'est assumer sa finitude. Assumer sa finitude, c'est assumer son humanité. Et homme, ça vient d'humus. Alors l'humilité, attention, c'est pas l'humiliation. C'est-à-dire que, en effet, la mauvaise fatigue, le burn-out, humilie les gens. L'humilité, c'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est le fait de s'estimer à sa juste mesure. Et si elle s'oppose évidemment à la vanité qui fait qu'on se surestime, elle s'oppose également au mépris de soi qui fait qu'on se sous-estime. La fatigue nous apprend en effet l'humilité et c'est pas mal. Elle nous apprend aussi le courage, elle nous apprend aussi la rêverie, parce que une fatigue assumée nous met dans une espèce d'état de rêverie que je crois très beau dans la vie. Une fatigue acceptée ouvre un moment de calme, de silence qui libère des inquiétudes, des soucis, des préoccupations dont souvent on sature la vie. Et cette fatigue-là, en effet, nous ramène au silence, au calme, à la confiance, à la rêverie, au Shabbat, au fond, comme on disait dans le temps.
Mmh, elle contraint, c'est ça, elle contraint à s'asseoir, à ralentir, vous dites, et même à contempler, finalement.
Oh oui, je crois, oui. Et c'est douce chose qu'elle nous apprenne cela.
Mmh. Mais Annie Vallon, est-ce que vous voyez aussi des bienfaits possibles au burn-out, et plus seulement à la fatigue? Est-ce qu'il serait possible d'en tirer des leçons positives?
Alors, parmi les personnes qui nous ont offert leur témoignage pour cet ouvrage, entre autres, et tous les autres, c'est vrai qu'on constate, pour certains, et de nombreuses années après, une forme de reconnaissance, si on peut dire ça, vis-à-vis de cette étape de vie, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, dans le sens qu'elle a évidemment, généralement, profondément ébranlé les fondations de l'être, hein, que ce soit l'estime de soi qui est très très lente à reconstruire effectivement, mais les croyances, les représentations, les valeurs. Mais lorsque cette fatigue, lorsque cet épuisement a été accompagné, a été compris, a été exploré, et qu'on a pu mettre des mots et retrouver du sens à ce qui s'est joué, ces personnes nous disent, voilà, se disent effectivement métamorphosées, plus jamais pareilles, mais elles savent finalement respecter leurs limites et évoluer dans ce monde-là en se respectant beaucoup mieux et en respectant finalement leur environnement de manière complètement différente. Donc oui, certains y voient quelque chose. Et il y a une vie après le burn-out, on peut encore.
Mais combien de temps il faut, définir ou avoir pour guérir d'un burn-out? Parce qu'il y a des gens qui sont en burn-out, mais qui prennent 3 ou 4 semaines, puis qui repartent dans le travail, puis finalement, c'est pas vraiment un travail de fond qui est effectué.
Alors, comme on n'arrivera jamais à poser, si vous voulez, un seuil à partir duquel on est en burn-out ou juste avant pas, c'est très difficile de dire 3-4 semaines, ce n'est probablement pas un burn-out. Hein. La moyenne des arrêts de travail en Suisse est de 3 à 6 mois. D'accord. Pour un véritable burn-out, ça peut durer beaucoup plus longtemps, de 2 ou 3 ans, et c'est des années de reconstruction la plupart du temps. Donc évidemment que voilà, c'est pas quelque chose d'anodin et
On en a parlé beaucoup au sein de l'entreprise, mais effectivement, il n'y a pas que au sein de l'entreprise que le burn-out saisit, hein.
Non, effectivement. Ce qu'on a souhaité montrer aussi, c'est que il s'agit beaucoup plus de la question du lieu d'investissement ou des rôles dans lesquels nous nous investissons. Et lorsque ces rôles sont multiples, que ce soit ben, le travail, mais peut-être le milieu associatif, le rôle de parent, peut-être de proche aidant parfois, eh bien on cumule finalement un certain nombre de facteurs de risque qui parfois peuvent submerger nos ressources pour y faire face.
Merci beaucoup Annie Vallon d'être venue nous parler de votre travail et de votre livre, donc Burnout, la maladie du 21e siècle, point d'interrogation, hein, donc tout n'est pas joué, il y a encore une carte possible.
C'est un livre que vous avez coécrit, hein, n'est-ce pas?
Avec Nadia Drault.
D'accord. Et qui est paru aux éditions Favre.
Aux éditions Favre et Eric Fiat, merci beaucoup à vous Eric Fiat, philosophe.
Merci à vous.
Musicien, poète, professeur d'éthique médicale et hospitalière à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, donc vous connaissez bien sûr aussi le burn-out qui saisit notamment dans ce milieu médical. Donc vous signez une ode à la fatigue aux éditions de l'Observatoire dans la nouvelle collection de La Relève, un livre que je conseille également très vivement.
Donc on va se reposer avec ces ouvrages.
Oui, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Anne-Laure. Et on se retrouve demain, je crois, avec vous.
Plaisir.
Voilà. Excellente journée.